say my name.
Heisenberg.
You're goddamn right.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture.
Tous les 15 jours.
Mercredi sur deux.
Voilà.
Tous les 15 jours, les semaines paires, sur Radio G. Salut Pablo.
Salut Seb. Bah, on est tous les deux ce soir, donc on passe un grand salut à Seb et Anaïs.
Et oui, on pense à eux.
Et on leur
dédicace. À tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Exactement. Ça fait plaisir de revenir.
Et donc, ce soir, on va parler de cinéma avec Matrix 4. On va parler de séries télé, on va parler de livres, de BD. Tout ce
Absolument.
Qu'on aime. Beaucoup de musique.
Oui.
D'ailleurs, on va démarrer l'émission avec le dernier titre des Red Hot Chili Peppers qui vient juste de sortir.
Excellent.
Il s'appelle Black Summer.
Eh ouais, parce que là, on passe un Black Winter, mais on préférait un Black Summer.
Exactement. Pas, ouais. Et on est bien sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point. A lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon.
Censorship, riding on a headless horse to make the trip. Waiting
avec Black Summer, leur dernier titre dans Band Geek Mafia. Ça t'a plu, Pablo ?
Ouais, j'ai adoré, c'est excellent. Ça fait plaisir de retrouver les Red Hot. Et alors, il paraît qu'ils partiraient sur une tournée mondiale en 2022. Donc,
cool.
Plutôt pas mal.
C'est vrai qu'on retrouve bien le son de la guitare,
ouais,
le rythme
basse.
Qu'on aime bien. Enfin, voilà.
Ouais.
C'est
ouais.
sympa, c'est toujours
ouais, ouais.
sympa.
Carrément. Carrément.
Tout de suite, le cinéma.
Allez, c'est parti. Ouais, il fallait au moins un générique comme ça.
Grandiose.
Ouais, pour...
rendre hommage à un grand acteur.
Bah ouais, carrément.
Qui nous a quittés.
Ouais.
Bien trop jeune.
Bien trop jeune et tragiquement et rapidement, c'est quand même assez incroyable.
C'est Gaspard Ulliel.
Ouais.
Alors, un long dimanche de fiançailles, juste la fin du monde, Sibyl, avec élégance, Gaspard Ulliel, il avait imposé son jeu, son regard bleu marine à l'écran. Et il devait bientôt tourner avec Bertrand Bonello, qu'il avait dirigé sur Saint-Laurent. Et donc, il est mort à 37 ans.
Ouais.
Alors Gaspard Ulliel, on le reconnaissait facilement parce que sur la joue gauche, il avait une cicatrice qui prenait quand il souriait des airs de Fossette.
Ouais, peu. Tout à fait. Un petit air de bad boy.
Ouais, mais c'était une marque laissée par les griffes d'un Doberman sur son visage de petit garçon. Voilà.
D'accord.
Une mauvaise rencontre.
Ouais.
Bon, on commençait pourtant à bien le connaître. Hein. Il avait commencé dès l'âge de 11 ans à faire l'acteur. Et puis, Pablo, tu disais...
Ben moi, j'étais passé un peu à côté, mais je l'avais vu. Et dernièrement, j'avais revu Le Pacte des Loups.
Voilà.
Et il a un petit rôle dedans, mais tout à fait honorable. Et puis, effectivement, après, moi, c'est un long dimanche de fiançailles.
Voilà, donc il enchaîne avec un rôle de poilu, en fait, avec Audrey Tautou dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, qui lui vaut le César du meilleur acteur masculin.
Ouais, absolument.
Voilà.
Ouais.
Et puis, sa carrière prend de l'ampleur. Il rafle un deuxième César du meilleur acteur cette fois pour sa prestation dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan.
Ouais, excellent. Hein,
que j'ai revu récemment, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Hein, c'est l'histoire d'un écrivain à succès qui est confronté à sa mort prochaine et à sa famille.
C'est une pièce de Lagarce. Hein.
Jean-Luc Lagarce.
Jean-Luc Lagarce, ouais, qui est vraiment excellente. Et c'est vrai que l'adaptation, bah voilà, de Xavier Dolan, qui est un jeune prodige, hein, et c'est vrai que avec un super casting, Juste la fin du monde, c'est vraiment ce magnifique film où justement le personnage qu'il incarne est assez mutique. C'est surtout les autres qui parlent, mais
et surtout on profite de son regard bleu.
C'est ça. Mais il a une présence. À la fois hypnotique et
il est
très
bien
poétique.
Il est très bien filmé,
c'est ça aussi.
Alors, il fait quelques échappées dans des grosses productions, hein, comme Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, mais il n'a jamais tourné le dos au cinéma d'auteur qu'il a révélé. On l'a vu dans Un barrage contre le Pacifique, dans La Princesse de Montpensier, dans L'Art d'aimer, dans Les Confins du Monde ou dans Sibyl. Donc, c'est Bertrand Bonello, en 2014, qui lui offre le rôle de sa vie en lui demandant d'incarner le couturier Yves Saint-Laurent dans le film Saint-Laurent. Donc, il est familier de l'univers du luxe parce qu'il est mannequin lui-même pour Chanel, voilà. Et il s'empare avec subtilité de son personnage d'icône, hein, voilà, pour composer une ambiance un petit peu viscontienne, assez complexe. Et après, quelques heures après l'annonce de sa disparition, Bertrand Bonello disait dans Libération, il était l'une des personnes les plus élégantes, intellectuellement et moralement, que je connaisse. Donc il est mort, Gaspard Ulliel, des suites d'un accident de ski le 19 janvier à 37 ans seulement. Et nous voilà réduits à imaginer les personnages qu'il ne jouera plus. Dans quel film il aurait pu jouer Gaspard Ulliel ? Dans beaucoup de films, je pense.
Ouais.
Voilà. Il aurait pu jouer, par exemple, je pense, dans un film de Gus Van Sant. Voilà.
Ouais.
Parce qu'il lui avait proposé de tourner dans deux longs métrages après l'avoir dirigé dans un sketch du film collectif Paris Je T'aime en 2006. Il aurait pu aussi s'inventer beaucoup de destins dans le cinéma. Comme jouer avec Vincent Lindon, par exemple, puisqu'il était censé le rejoindre pour le tournage d'une série réalisée par Xavier Giannoni pour Canal+. Voilà, donc on va pouvoir quand même le voir une dernière fois, puisqu'il sera à l'affiche de la série Marvel Moon Knight, diffusée
d'accord.
en mars sur Disney+.
D'accord.
Voilà. Donc, Gaspard Ulliel, c'était un grand acteur. Voilà.
Ouais, un grand acteur, et qui avait effectivement promis une carrière assez énorme que tu viens de rappeler, mais on imaginait effectivement tout ce qu'il allait pouvoir encore développer.
C'est ça.
À la fois dans le cinéma indépendant, cinéma d'auteur, et puis bien sûr à Hollywood, puisqu'il est déjà franchement marqué. Donc, bref, il avait beaucoup de cordes à son arc, et vraiment on le regrette.
Pablo, un petit générique et c'est à toi.
Ça roule.
Pour Matrix 4.
Yes, c'est parti. Alors voilà, ouais, ça va bien ce petit slogan, enfin ce petit générique un petit peu, parodique, puisqu'on est dans quelque chose qui tient un petit peu du parodique dans Matrix 4, Matrix 4 Résurrection. Alors, le film n'est plus à l'affiche, il me semble, mais je vous invite à le retrouver ou à le voir, puisque bon, il est sorti en décembre dernier, et je pense qu'il doit être en fin d'affiche là. Les fans de la saga, des sœurs Wachowski l'attendaient depuis l'annonce par Lana Wachowski de réaliser une suite à la trilogie. D'ailleurs, Lily, l'autre sœur, s'était retirée du projet, déclarant que la trilogie lui suffisait telle qu'elle. Ce qui, selon moi, est révélateur du résultat ambigu du film, à la fois décevant et enthousiasmant. Bon, on est dans quelque chose que je vais essayer de vous montrer, c'est à la fois les deux, d'accord ?
C'est bien et pas bien.
Ouais, ouais, c'est bien.
Ah oui, Pablo, tu as préparé de la musique, alors, mais tu ne me l'avais pas dit. Alors,
voilà,
c'est parti.
Donc, si tu veux bien nous passer la bande-annonce.
C'est parti.
Nous ne le savons pas, mais nous sommes tous prisonniers de ces étranges boucles temporelles.
Des milliards de gens qui mènent leur petite vie anonyme, sans même y penser.
L'heure est enfin venue. Tu vas devoir nous montrer ce qui est réel.
Léo !
Oui, je me souviens de ça.
Alors, je vous lis le synopsis.
Et pourtant, tout a l'air faux.
Thomas A. Anderson, alias Neo, ne se souvient plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Il est le créateur d'une trilogie de jeux vidéo à succès, Matrix. Mais c'est un homme perturbé par d'étranges visions. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Tiens, tiens. Après la réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus qui lui offre le choix entre rester dans la matrice et prendre son envol. Matrix Résurrection nous replonge dans deux réalités parallèles, celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule. Pour savoir avec exactitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, Monsieur Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas, Neo, a bien appris quelque chose, c'est qu'une telle décision, quoi qu'il dût voir, est la seule manière de s'extraire de la matrice, ou d'y entrer. Bien entendu, Neo sait déjà ce qu'il lui reste à faire. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que la matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un air de déjà-vu. Alors, ici Lana Wachowski a bien évidemment demandé à sa sœur si elle voulait l'accompagner dans ce projet fou de ressusciter la franchise Matrix. En effet, si la cinéaste a voulu faire revivre Neo et Trinity, c'était en grande partie pour soigner une blessure profonde causée par la perte de leurs parents. Je cite, « Lily a refusé, préférant faire son propre deuil. Elle peignait beaucoup à l'époque. Moi, c'est l'écriture du scénario qui m'a sorti de cette tragédie », confie Lana dans les colonnes du magazine Première en décembre 2021. Et je cite encore, « Écrire fut un moyen de combler le vide. Une fois terminé, j'ai fait lire cette histoire à ma femme qui m'a conseillé de faire le film », ajoute-t-elle. Un air de déjà-vu, en effet, un air de déjà-vu. Certes, c'est l'aspect décevant du film. Des scènes qui se rejouent, du premier Matrix. Thomas Anderson est à nouveau prisonnier de la Matrice. Son esprit est sous contrôle, il va falloir à nouveau le libérer, puis tenter de libérer celle qui pourrait refaire vivre Trinity. De nouveau affronter les agents gardiens de la Matrice. Bref, tout est à recommencer. La flemme et la lassitude pourraient reprendre le dessus. À quoi bon tout ça ? À quoi bon avoir encore ce combat ? En quoi bon a-t-on encore la force d'ailleurs de reprendre ce combat ? Les risques, les doutes. Une fatigue intellectuelle pourrait nous prendre face à cette situation absurde qui se répète sans cesse. Nous pourrions faire comme Thomas Anderson qui avale ses pilules bleues pour oublier qu'il a été un jour Néo le libérateur. Et il faut avouer que les premières minutes du film nous plongent dans une sorte d'ennui cotonneux. C'est justement là que je trouve, Lana Wachowski assez forte. Elle nous réveille, nous secoue et nous réélectrise un coup, en même temps que Néo. Et c'est reparti pour un tour. On apprend alors que nous sommes enfermés dans une nouvelle matrice. Une matrice plus perverse celle-là, parce qu'elle fait des boucles temporelles. D'où ce sentiment d'éternel retour absurde des mêmes choses. Lana nous rappelle que le prix de la liberté ou de la libération de l'esprit est à ce prix. Les doutes dans les choix que nous avons à prendre, les risques de se tromper et d'échouer, les combats à affronter contre l'adversité. Rappelez-vous, c'est ce que nous enseignait Nietzsche déjà et que nous enseigne Albert Camus dans L'homme révolté ou dans La peste. Face à l'absurde, il faut soit renoncer, soit se battre. Soit rester dans sa zone de confort et son ressentiment face à l'absurde, soit sortir de soi, de son égocentre, et entrer dans l'action, et face à l'absurde, lutter et créer contre lui. Je cite Camus. Deux points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non, mais il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Fermez les guillemets. La révolte naît de la perte de patience. Elle est un mouvement et se situe donc dans l'agir. Or, c'est ce mouvement vital, ce sens de l'agir que retrouve notre héros Néo. Il va d'ailleurs retrouver une grande partie de sa puissance et de sa maîtrise des arts martiaux. Nous retrouvons donc avec plaisir les scènes chorégraphiques de Kung Fu qui défient les lois physiques et la gravité. Si vous avez aimé les innovations de la trilogie Matrix, son art surexcitant de la synthèse SF-action, son univers cyberpunk hyper référencé, son gun-fu, sachez-le, vous serez déçus. Et sans cesse beaucoup, et sans doute d'ailleurs beaucoup. Et je suis d'accord avec Première ici pour dire que c'est sans doute fait exprès. Je cite le magazine. Matrix Resurrection va faire pour vous le plus beau, le plus gros, le plus inespéré doigt d'honneur à l'industrie du blockbuster. On va dire qu'on gagne plutôt au change. Non, Matrix Resurrection n'est pas le Fury Road de la franchise. Une résurrection qui est aussi une remise à zéro démente. Seb, tu te rappelles de Fury Road ?
C'était génial.
Ouais, 2020, je crois, hein, et un des meilleurs.
Un peu avant.
Peut-être avant, 19, mais un des meilleurs films, hein, vraiment. Et là, vraiment, un renouveau qui était vraiment, justement, génial, comme tu dis. Hein. Donc, c'est dans son style particulier, une très bonne leçon donnée au public. On s'attendait à du bullet time, du kung-fu, des ralentis, des flingues, des idées de SF parfois dingo, des citations de Lewis Carroll, des miroirs. Matrix Resurrection vous fournit tout ça, rassurez-vous. Mais avec une mauvaise grâce, toute particulière, puisque le film va littéralement prendre en compte l'idée de reboot de Matrix et la montrer du doigt pour ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle est ? Une idée excitante, certes, mais complètement opportuniste et mercantile. En effet, l'aspect parodique du reboot joue à fond. Le côté méta aussi, comme dans les Marvel. Le côté méta, c'est le côté où, lorsque l'on cite constamment, on commente de façon humoristique les autres films de la franchise. Chez Marvel, on est souvent au premier degré. Dans Matrix Resurrection, on est plutôt au second degré parodique. J'en veux pour preuve quelque chose d'innovant et de profondément humain, propre au style de Lana Wachowski. reprendre les mêmes acteurs et personnages, mais plus vieux. Ici, Keanu Reeves, alias Neo, et Carrie-Anne Moss, alias Trinity. La nouvelle trilogie des Star Wars avait déjà remis au jour les vieux personnages, Han Solo, Leia Organa, Luke Skywalker. Mais souvent, au second plan par rapport aux jeunes générations, aux jeunes de la nouvelle génération de héros. Dans Matrix 4, les héros sont vieux, mais ils ne sont pas si fatigués que ça. Ils sont au centre, au premier plan, les jeunes n'étant là que pour les réveiller, les coacher ou les aider à devenir ou à redevenir ce qu'ils sont. C'est à la fois un geste à contre-courant de l'industrie cinématographique hollywoodienne, voire un geste irrévérencieux, un doigt d'honneur de la part de la réalisatrice, mais aussi un geste plein de tendresse et d'humanité, où c'est l'amour qui est remis au centre. Comme dans Cloud Atlas ou comme dans la série Sense8 dont je vous avais fait la chronique l'an dernier. Bref, comme vous le savez, si vous connaissez Matrix, ne vous laissez pas piéger par les images et les apparences de la simulation. Ne vous arrêtez pas à cette première impression décevante de déjà-vu. Mais voyez au-delà, dans l'humain, en regardant Matrix 4 Résurrection. Merci de votre écoute.
Merci Pablo. C'était un remix de White Rabbit de Jefferson Airplane.
Bien.
Dans la BO de Matrix 4. Ambiance.
Ambiance, ambiance.
Oh, c'était bien.
Yo.
Alors tout de suite, on va vous parler de séries deux séries. La mienne s'appelle Flippé. Et ouais. Pablo, c'est True Detective saison 2.
La saison 2, voilà.
Alors Flippé, c'est les tourments. Les tourments délirants de Théo Grosjean.
D'accord.
Et oui, quoi de mieux que l'humour pour raconter sa vie d'angoissé chronique.
Ah.
Voilà, le dessinateur adapte ses strips d'Instagram avec dans une hilarante, je dirais, série animée. Alors, Flippé, donc c'est la première saison, c'est du lundi au jeudi à 19h20 sur Canal+, en clair.
Ah, pas mal.
Important. C'est le rire contre l'angoisse. C'est un sujet depuis l'enfance hein, que tout le monde connaît. Il faut sortir de ses peurs, de ses phobies, hein, de ses maladies imaginaires, comme disait Molière. Et donc Théo Grosjean, il est parvenu à trouver une issue de secours, le dessin d'humour.
Excellent.
Publié depuis décembre 2018 sur son compte Instagram, sa série de strips autobiographiques qui s'appelle « L'homme le plus flippé du monde » est devenue virale. Même si ce n'est certainement pas le terme que cet hypochondriaque de 26 ans utiliserait. Viral.
Oui, ben oui.
Voilà. Au départ, ça devait être qu'un petit exercice, 10-15 strips pour les copains, ça s'est transformé en feuilleton. Voilà. 150 épisodes, 175 000 followers et deux recueils chez Delcourt. Ces petits cauchemars réveillés viennent d'être adaptés en animation, donc des pastilles de 2 minutes, administrées en clair par Canal+, qui, en stimulant les zygomatiques, contribuent à dissiper l'amorosité et les idées noires. En donnant une apparence à son angoisse, celle d'une quadra psychorigide qui lui rappelle sans cesse ses bévues et l'insignifiance de son existence, et en mettant en scène ses tourments aussi morbides que délirants, Grosjean se libère de leur emprise. Voilà. Initié et produit par Kian Kojandi, hein, quand même, le créateur de Bref et de Bloqué,
d'accord,
qui à l'évidence raffole des titres concis, Flippé a cependant été écrit et co-réalisé par le jeune dessinateur. Il a su écouter les conseils de l'humoriste, qui fait la voix d'ailleurs du personnage principal, conseil en matière de rythme et de comique de situation. Grosjean a tenu à suivre au plus près toutes les étapes de l'entreprise, du storyboard au casting des acteurs, une condition sine qua non, même s'il s'agissait de sa première expérience en animation. Alors, les 20 épisodes de cette première saison peuvent se regarder séparément. Hein. Un récit, cependant, se fait jour.
Donc, c'est un animé, c'est ça? C'est oui. Une série en animation hein.
Oui, c'est ce que je raconte depuis le début.
Non, mais c'est ça que je
série animée. Alors, les 20 épisodes peuvent se regarder séparément, mais un récit se fait jour. Théo rencontre Oriane, une inconnue chelou, encore plus douée que lui pour mettre les gens mal à l'aise en soirée.
D'accord.
Mais nettement moins flippée. Et peu à peu, sa vie se transforme. Source d'angoisse et d'obsession, l'amour, tel que décrit dans un épisode du même nom très réussi, en est aussi le meilleur antidote. Comme son mentor et éditeur Lewis Trondheim, qui fut aussi son professeur, et avec lequel il partage bon nombre de phobies, Théo Grosjean ne se limite pas au registre comique. C'est doux, amer, c'est introspectif, c'est entièrement réalisé en vue subjective. Son album Le Spectateur est l'une des belles surprises de 2021. Donc son prochain opus, L'œil du cyclone, est prévu pour la fin de l'année aux éditions Exemplaires. Et il aura lui aussi la volonté de casser les codes. Voilà. Comme dans la série britannique Normal People. Je ne sais pas si tu connais Pablo. En tout cas, toute ressemblance avec sa propre vie n'ayant évidemment rien de fortuit. Flippé, donc, pour résumer, c'est l'histoire d'un mec à qui tout fait peur, voilà. Même le bonheur, surtout le bonheur.
Surtout le bonheur, excellent. Bah, disons, ça donne vraiment envie. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, je trouve, ces petites pastilles comme ça qui nous titillent.
Exactement.
Génial.
Parle plus loin du micro. Parlons plus loin du micro, nous la remettons une fois vite fait.
À toi, Pablo.
Cool. Donc on va partir sur la série True Detective. Alors il y a un mois en fait, parce que j'étais absent la dernière quinzaine, mais il y a un mois je vous avais parlé de True Detective saison 1.
Et la meilleure.
Ben, c'est la meilleure, ouais. Franchement, c'est vrai que des trois, c'est la meilleure. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger les autres. Si vous avez aimé quand même l'ambiance, je pense que vous plongez dans True Detective 2. Et après, dans 15 jours, je vous parlerai de True Detective 3. Je crois que là, il y a aussi quelque chose de très...
Il y a
beaucoup
de choses à dire parce que personne ne l'a vu, la saison 3.
Ben, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu inaperçue.
Ah, complètement.
Pourtant, on en reparlera, mais elle mérite quelque chose. Donc, c'est parti. Tu veux bien nous mettre un peu... Alors, on écoute le grand Leonard Cohen, Nevermind.
The war was lost, the treaty signed. I was not caught, I
Voilà, donc ça c'était le c'est le générique en fait hein, de la saison 2 de True Detective. True Detective est une anthologie télévisée américaine. Donc anthologie veut dire, je rappelle, c'est-à-dire que chaque saison est indépendante, comme dans Black Mirror. D'accord. La série a été créée et écrite par Nick Pizzolatto et la deuxième saison fut diffusée en 2015 sur HBO aux États-Unis, en France sur OCS d'abord, puis Canal+. Voilà. True Detective s'est vite imposé parmi la critique et le public comme une série culte. Alors, je vous lis le synopsis. Dans la ville fictive de Vinci, dans le comté de Ventura, près de Los Angeles, le gérant municipal Ben Casper est retrouvé mort sur une aire d'autoroute, le corps mutilé. L'État réunit alors une unité spéciale pour enquêter sur les circonstances de sa mort. D'abord, Ray Velcoro, interprété par Colin Farrell, un policier corrompu au service d'un mafieux local, Frank Semion. Frank Semion, interprété par Vince Vaughn, cherchant à se repentir, mais ayant perdu tout son argent avec la mort de Casper. On a aussi Antigone Annie Bezeraides, interprétée par Rachel McAdams, une excellente femme policier hantée par son passé. Et Paul Woodrow, Taylor Kitsch, donc un Canadien, un policier à moto, vétéran de guerre, pris dans un scandale sexuel. Les quatre personnages vont découvrir peu à peu l'ampleur de l'affaire, mêlant politiciens véreux, politiciens corrompus et cartels autour d'un projet de voie ferroviaire traversant toute la Californie. Encore un casting incroyable. Nous ne sommes plus sur un duo comme dans la saison 1, mais sur un trio plus un, en fait un quatuor. C'est-à-dire qu'on a trois flics abîmés par la vie et hantés par leur passé, en plus d'un mafieux, non dénué d'une certaine éthique, qui aimerait bien se ranger des voitures. L'équilibre est très subtil et selon moi réussi entre les quatre personnages pour une intrigue relativement classique du polar noir. Je dirais que la force de la saison 2 de True Detective et ses personnages évidemment, mais ça c'est le propre de la série, ses ambiances, dont la musique, sa faiblesse, c'est son intrigue. Cette dernière est très classique et sans surprise. Elle me rappelle néanmoins L.A. Confidential de James Ellroy, et puis adapté à l'écran aussi, enfin, j'avais bien aimé le film, où l'on retrouve des flics droits, mais en butte aux forces obscures de la décadence du système dans un Los Angeles corrompu. D'ailleurs, la ville est souvent filmée de haut, en plongée totale, où l'on voit ces réseaux routiers, ces échangeurs de voies rapides et d'autoroutes comme autant de tentacules d'une immense pieuvre qui tient ses habitants en son pouvoir, qui les broie. On aperçoit un petit peu de David Lynch, un petit air de Mulholland Drive, mais très furtivement. Bon, certes, quand vous regardez True Detective saison 2, il faut accepter de ne pas retrouver tout ce que vous avez adoré dans la saison 1. L'osmose parfaite entre les personnages, l'ambiance glauque des bayous de Louisiane, la puissance des dialogues. Là, on est plongé dans une ambiance urbaine, de corruption, de faux-semblants. Mais rassurez-vous, l'ambiance glauque est de la partie. Une ambiance même hallucinante. Par exemple, cette séquence de l'épisode 6, où l'on suit la policière Antigone Bezeraides infiltrée dans une soirée orgiaque à la Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. J'en dis pas plus. Je cite un passage d'un article critique de Télérama, pour être fair play, un article justement qui n'a pas du tout aimé la série. Donc je vous le cite. La thématique centrale de la paternité n'est pas sans intérêt, mais les douloureuses relations entre enfants et parents sont elles aussi lourdement traitées, à coups de coïncidences trop nombreuses. Tous les personnages ont les mêmes soucis, déclinés différemment, et l'intrigue policière renvoie aussi à leurs tourments. Mais avec un pathos écrasant, une exagération permanente qui empêche de s'identifier au personnage. Peut-être n'était-ce pas une si bonne idée que ça, que de faire plus de personnages principaux. Aurait-il fallu plus de temps à Nick Pizzolatto pour leur donner chair? Comme Le redémarrage de l'épisode 5 le laisse penser. Cette saison 2 ressemble à un demi-échec industriel. Comme si l'on tenait là une bonne idée, une vraie belle série, de bons personnages, mais que jamais on ne parvenait à les mettre en mouvement de façon satisfaisante. Comme si le récit avait échappé à son auteur, comme s'il avait écrit un brouillon de scénario sans pouvoir revenir en arrière et l'améliorer. Comme s'il avait fallu courir, faire au mieux, accepter un pis-aller. Bon, fin de citation. Je pense cependant qu'il faut une réévaluation de la saison 2 pour plusieurs raisons. Je vais en citer 5 en fait, en m'appuyant ici sur une autre critique du site internet qui s'appelle Écran Large. Première raison, d'abord les personnages. Ensemble, ils forment une mosaïque particulièrement sombre. Plutôt que de jouer la complémentarité, Pizzolatto, le créateur de la série, a choisi de les écrire comme des miroirs les uns des autres. Autant de gueules cassées qui amplifient les traumas de chacun. Caïd, en quête de responsabilité, flic pourri désireux de se racheter, enquêtrice dévorée par la colère, ancien vétéran incapable de sortir du placard, ému par une pulsion de mort envahissante. Voilà une sacrée galerie de personnages aussi venimeux qu'attachants. La deuxième raison, le décor urbain. Photographié à la perfection, ce décor se déploie à la manière d'une toile d'araignée poisseuse, où le personnage se retrouve immédiatement englué, sorte de labyrinthe répétitif et dénué d'issue, ce lieu synonyme et pourtant empreint d'un caractère entêtant est représenté ici par une force inédite. C'est l'écrin parfait d'un récit qui vire progressivement au cauchemar. La troisième raison de voir la série True Detective saison 2, c'est parce que noir c'est noir. Si l'investigation de la première saison a mené Matthew McConaughey et Woody Harrelson dans les plus ténébreux recoins de Louisiane, le récit de leur odyssée revêtait une logique plutôt positive et ultimement lumineuse, puisqu'il était question de Rust Cole et d'une forme d'optimisme et de foi en l'être humain. Ici, True Detective ose le chemin parfaitement inverse et se risque à un constat désespéré et désespérant. Les fautes et démons des protagonistes les condamnent. Ainsi, c'est justement la quête du salut qui perdra la plupart des protagonistes. Le monde de True Detective saison 2 est un cloaque impitoyable, privé de tout espoir d'équilibre. Vouloir s'en affranchir, c'est précipiter sa chute. La quatrième raison de voir cette saison, c'est le duo Vaughn Farrell. Si Rachel McAdams et Taylor Kitsch ne déméritent jamais, dans des rôles assez éloignés de ceux qu'on leur confie le plus souvent. Mais les interprètes qui retiennent le plus l'attention sont Vince Vaughn et Colin Farrell. Le premier prend une dimension très sombre. La destinée de son personnage offre au spectateur le sentiment de redécouvrir le visage du comédien, progressivement ravagé par la tristesse et la haine. Quant à Colin Farrell, il retrouve la figure du loser intégral qui lui va si bien. Une nouvelle fois, il est fascinant de voir cet acteur qui paraît si souvent s'affaisser quand Hollywood veut en faire un héros d'action et semble touché par la grâce sitôt qu'il incarne un individu pathétique. Son Velcoro est un modèle de tragique amer. Enfin, la cinquième raison de voir cette saison, c'est une musique mélancolique. L'identité sonore de la première saison avait été remarquée à raison. Cette deuxième saison fait tout aussi bien en renouvelant totalement l'identité audio de la série. Tout d'abord, on note un mixage sonore et une musique poisseuse qui s'adaptent le plus souvent parfaitement au décor évoqué plus haut. Voilà qui tranche avec le bayou de la Louisiane et avec une certaine réussite. Mais l'atmosphère si spéciale de cette deuxième saison doit énormément à l'Air Aline, dont nous entendons des extraits depuis tout à l'heure. La chanteuse signe plusieurs morceaux présents dans le récit, le plus souvent utilisés dans les séquences de bar où se retrouvent les personnages de Pharrell et Vaughn. Nous sommes alors avec eux dans le bar, dans la même ambiance sonore, à écouter la même jeune femme chanter seule sur scène avec sa guitare électrique. C'est une sorte d'expérience immersive par le son qui donne une émotion cruellement mélancolique, comme si nous traversions le quatrième mur pour accompagner cet anti-héros au gré d'une nuit sans fin. Bon, j'espère vous avoir convaincu d'aller voir True Detective saison 2 ou bien d'aller la revoir, et surtout si vous aviez été déçu à la première fois. La prochaine fois, je vous parlerai de la saison 3 pour finir sur le cycle True Detective. Merci de votre écoute.
Vous allez écouter un podcast Radio G.
Nous sommes-nous ?
Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican. Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du navet que j'ai posé place Balayette. Place Lafayette. Savez-vous qu'il est la marque d'une période de ma vie ? C'était l'époque, pas si lointaine, où je jouais au vendeur de légumes sur le marché. Cette activité m'a amené à rencontrer beaucoup de gens. Et dans nos clients, il y avait une femme qui me plaisait. Je la trouvais adorable, elle me faisait craquer. Mais la vie m'a malmené, car à chaque fois que c'était à son tour d'être servi, eh bien cela tombait sur mon collègue. Et les semaines passèrent ainsi, faisant grandir en moi la frustration. Puis, un jour, ce fut de trop. Je me lançai dans l'écriture passionnée d'un poème. Je voulais exprimer à cette femme ce que je vivais et qu'elle ne soupçonnait point. Oh, je n'osais espérer qu'il allait faire chavirer son cœur et qu'une relation plus intime entre nous pût voir le jour. Non, car lorsqu'elle s'arrête à notre étal, elle est accompagnée de ses deux jeunes enfants. Mais j'avais envie de lui partager mes mots plutôt que de les laisser dormir dans un tiroir. C'est ainsi que je ramenais mon poème à chaque jour de marché, attendant le jour où elle ferait son apparition. Quand ce jour vint, le ventre remué, je lui remis ma lettre. Elle fut étonnée, touchée de cette attention, surprise, me confiant qu'elle aussi aimait écrire, puis nous nous sommes dit au revoir. Quand elle est rentrée chez elle, voici le poème qu'elle a pu lire. « Quand pourrais-je enfin vous servir, toutes ces semaines à me languir, me demandant ce qu'il y a de pire que de vous voir à nouveau partir ? Mais qu'ai-je donc fait pour mériter cette fatalité ? Suis-je donc condamné à vous regarder passer ? Chaque fois que le sort ainsi me frappe, sous mes pieds s'ouvre la trappe. Laissez-moi vous exprimer ce qui se passe à votre arrivée. Alors que mon cœur chante des psaumes, je sers les autres tel un fantôme. Tout mon être est à votre personne et n'a plus que faire des pommes. Devant tant de désespoir, plutôt que broyer du noir, j'ai consulté les auspices, puis j'ai préparé un office. Par une nuit sans lune, invoquant mille runes, j'ai pratiqué un sacrifice en tranchant un choulisse. Peut-être est-ce mieux ainsi que de sombrer dans la folie, simplement contempler la beauté du fruit, observer la pierre sertie, sortir un instant de l'ennui, plutôt que goûter à votre délicatesse pour que subitement elle cesse. M'imprégner de votre nectar pour tout perdre à votre départ, m'évader dans vos yeux, puis perdre le merveilleux et retomber dans mon désert, dans une marche où j'erre. Peut-être est-ce mieux ainsi que je garde mon vernis, plutôt que votre lumière ne découvre ce qu'il y a derrière, plutôt que votre beauté ne découvre la grossièreté. J'en serai alors navré à pleurer dans mes navets. J'aimerais avec vous partager la douceur d'une promenade, mais je ne fais qu'espérer et vendre des salades. Alors que persiste mon envie, dans votre liste que du persil? Son bouquet fera-t-il votre bonheur plus que celui de mes fleurs? J'avais exprimé ce qui me tenait à cœur. Je me demandais comment elle réagirait la prochaine fois que je la verrai. Il n'en fut rien. Elle n'est plus venue à notre stand.
Voilà Pablo, on continue notre partenariat avec Waldo, un artiste angevin.
Ouais, parce qu'on fait même du street art sur Bangit Mafia.
Ah mais on fait tout. On est éclectique.
Voilà, c'est ça. Hein.
C'est ce qu'on aime.
C'est notre marque de fabrique.
D'ailleurs, tout de suite, on va parler d'une chaîne YouTube, ce qui nous arrive pas souvent. Ça nous arrivait un peu plus souvent autrefois, mais
ouais,
puis
ça faisait
là,
longtemps.
Je suis tombé là-dessus. Je vous en parle tout de suite.
Ça roule.
Creature Shock Radio FM. Alors, je voulais vous parler de The Plot Point.
The Plot Point
sur YouTube.
D'accord.
Avec ses rescapés échoués sur une île déserte, la série Lost l'a marqué, au point de lui donner envie de devenir scénariste et script doctor. C'est une source d'inspiration pour beaucoup dans la profession, avoue-t-elle. Elle s'appelle Marion Doriac et elle s'est trouvée attirée comme ça par le cinéma et ses déclinaisons un peu sur le tard. Hein, et plus elle avançait dans ses recherches et ses rencontres, plus son intérêt pour la dramaturgie s'est transformé en évidence qu'elle partage sur YouTube avec sa chaîne The Plot Point.
The Plot Point.
Alors le pitch. Elle dit « Je veux donner des clés pour comprendre pourquoi une histoire est efficace et marquante. » Elle expose donc dans ses vidéos cette démarche, cet objectif. Elle a 28 ans hein, et elle a beaucoup vu de films, hein, ça se voit tout de suite. Par exemple, elle propose une vidéo sur la puissance du film Titanic.
Ok.
Voilà, par exemple.
C'est clair.
Et chaque capsule de la chaîne traite d'un axe d'écriture en se servant d'une œuvre comme fil rouge. Mm-hmm. La figure de l'antagoniste dans Fight Club.
Waouh.
Bonne idée. L'art d'un storytelling différent à travers le voyage de Chihiro.
Yes. C'est
donc bon. Les analyses sont limpides. De l'imaginaire cinéphile éclaire. L'imaginaire cinéphile éclaire la mécanique à succès de films grand public. Après tout, si on se souvient encore du terrifiant Hannibal Lecter. C'est bien que le personnage est savamment construit.
Ouais, c'est clair.
Alors, s'il ne fallait voir qu'une vidéo pour démarrer, je vous conseille hein, celle sur l'évolution de Woody, le cow-boy, dans Toy Story.
Oui.
Jaloux de l'arrivée de Buzz l'éclair, il se rend compte de sa valeur au terme d'une série d'obstacles à surmonter. Avec justesse, Marion Doriac décortique le concept d'arc narratif chez le héros, qui a dû évoluer au fur et à mesure des intrigues pour renouveler les enjeux du film. Une démonstration éclairante. Voilà.
Ouais, cool.
Donc, je voulais partager ça avec vous. Hein. C'est Band Geek Mafia 2.0.
Ouais, tout à fait.
The Plot Point sur YouTube. Voilà.
Bah, excellent, ça donne vraiment envie.
Ouais, non, mais vraiment, il y a des chaînes incroyables, moi, je trouve, sur YouTube. Alors, on écoute un peu de musique parce que je voudrais vous parler
que tu nous proposes, là
de deux artistes.
Allez,
qui ne sont pas des jeunes débutants, hein, ne sont pas mais qui sont à redécouvrir.
Yes.
On a d'abord Hills. Voilà. Et ensuite, on parlera de Beyrouth. Alors, je vais parler sur la musique, c'est horrible, mais c'est comme ça. On a déjà passé ce morceau, Steam Engine. Steam Engine. Alors, vous connaissez Hills?
Oui.
Tout le monde connaît Novocaine for the Soul, un titre des années 90. Sauf que I, alias Mark Oliver Everett, continue à faire des albums très régulièrement. Et il vient juste d'en sortir un, qui s'appelle Extreme Witchcraft.
D'accord.
Extreme Witchcraft. Ouais, sorcellerie extrême.
Ouais, d'accord. Extreme Witchcraft. Ouais, il faut prendre son élan pour le dire.
Extreme Witchcraft.
Yes.
Avec la complicité de John Parrish.
D'accord.
Un super producteur américain. Le débonnaire patron de Hills signe un disque solaire à l'énergie rugueuse. Donc on l'avait laissé Mark Oliver Everett hein, fin 2020 avec un album Earth to Dora publié à l'aube d'une deuxième vague épidémique. Là, il était fidèle à lui-même et à son indéfectible créativité, hein, incroyable. Il mélange le rock avec des accents blues et poétiques. Hein. Et puis, son successeur qui vient de sortir, c'est le 14e album hein, depuis 1996. Eh oui, le chanteur maintenant a 58 printemps, mais à la voix éraillée.
Ouais, toujours.
Mais il hausse encore le niveau, moi je trouve.
Ouais.
Donc réalisé avec John Parrish, le producteur anglais fidèle de PJ Harvey. Hein. Voilà. Déjà aux manettes sur Soul Jacker en 2001. Cet Extreme Witchcraft inaugure une recette inédite. C'est une sorte de cadavre exquis. En fait, parce qu'il a écrit les morceaux en échangeant des emails.
Ah oui, d'accord.
Et ça aboutit à une collection de chansons qu'on dirait pourtant enregistrées d'un seul ton. Donc des chansons énergiques. Voilà. Avec un Everett en grande forme. On l'entend là d'ailleurs.
Ouais, tout à fait.
Hein, qui se moque aussi un peu de lui-même, voilà. Donc le tempo se nourrit de guitare swing.
Ouais.
Presque guillerette. Et d'un groove moelleux.
Oui.
Merci Télérama. Voire un petit peu triste parfois, parce que évidemment Everett, il a aussi ce côté un peu mélancolique.
Ouais.
C'est un optimiste tourmenté, voilà. Si on devait le qualifier.
Ouais, pas mal.
Il a rarement semblé prendre autant de plaisir à l'ouvrage, voilà. On l'apprécie d'autant plus ainsi. Pablo, qu'est-ce que
très
tu en
sympa.
Penses
Moi, j'ai adoré. Ouais, c'est très sympa. Il y a ce petit côté à la fois folk et country qui passe vraiment bien, quoi.
C'est bien, hein.
Ouais.
Alors, à découvrir Hills Extreme Witchcraft.
Ouais, génial.
Alors, deuxième groupe à découvrir ou à redécouvrir ce soir, c'est Beyrouth.
Eh oui.
Beyrouth qui n'avait rien sorti depuis 3 ans.
Ouais.
Et son dernier album, Gallipoli, datait de février 2019. Alors, ce n'est pas tant par faute d'inspiration de la part de son leader Zach Condon, mais celui-ci était fort occupé à faire du tri, à faire du rangement, voire du remixage parmi des archives qu'il avait commencé à explorer dans le but modeste de redonner vie au premier EP du groupe.
D'accord.
Comme nous, il devait trouver vaguement scandaleux qu'un morceau de la trompe de Napoléon and the Bellerophon, un des sommets du style Beyrouth, ne puisse se dénicher que sur un EP digital. Donc voici donc que sort Artifacts, une collection pléthorique de 26 titres qui parcourt 14 ans d'histoire du groupe. C'est une espèce de compile en fait.
Ah, ils sont fait une auto-compile en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Et ils se piquent même de remonter à des maquettes enregistrées par un Zach Condon encore adolescent.
Excellent.
Donc le musicien précoce lâchant sa guitare pour la trompette, bercé à vie par les mariachis de son Santa Fe natal, toquer des musiques festives des Balkans dès son premier voyage initiatique en Europe. Cet homme à part, je dirais, de la pop indé américaine, c'est un américain cosmopolite.
Ouais, ça fait... D'ailleurs, c'était une de leurs chansons, Santa Fe.
Oui, il y a eu Nantes, il y a eu Cherbourg, il y a eu Santa Fe. Alors, Nantes, c'est un très beau titre.
Excellent.
Alors, les morceaux dont la plupart mériteraient vraiment de revoir le jour, hein, avec ou sans cuivre, parfois instrumentaux, réverbérant des échos inattendus de New Wave anglaise, quelquefois des sons un peu New Wave anglais, souvent porteurs de cette mélancolie suave et déchirante qui a fait de Beyrouth le digne héritier des Beach Boys de Pet Sound. Et un pendant, je dirais, un peu moins cérébral de Radiohead.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Alors bizarrement, le groupe de Zach Condon est resté d'ailleurs, passé l'engouement du premier album, je dirais, en 2006, il est resté un peu méconnu, peu cité en référence.
Ouais, c'est vrai.
On se souvient cependant que leur dernier passage à Paris avait laissé un grand Rex rempli à bloc dans un rare moment d'euphorie, un état d'euphorie. Et donc cette rétrospective multifacette préfigure sans doute un nouvel élan.
Yes, c'est cool.
Donc deux CD ou LP, hein, ça s'appelle Artifacts de Beyrouth, avec des morceaux rares, des inédits, voilà. Il revisite son passé dans ce généreux diptyque.
Merci, c'est top.
We'll be right back.
This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
Excellent, Pablo.
Ouais.
La prochaine fois, tu nous parleras de quoi, Pablo ?
Bon, écoute, la prochaine fois, je vous parlerai d'un polar magnifique qui s'appelle Mon Territoire de Tess Sharp, et puis d'une BD aussi, et puis d'autres choses encore. Et toi, super. Alors, Seb, t'as...
Bon, ben moi, je viens d'acheter le dernier Rockard,
yes,
avec sa super compile. On va tout de suite écouter d'ailleurs un titre de Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators.
Parfait.
Parce que je vous rappelle quand même qu'au mois de juin, il y aura le Hellfest. Quand
exact.
Même. On croise les doigts.
Et on croise les
Hellfest
doigts.
Hellfest à Clisson, 4 jours de musique, ça va être la folie. On vous souhaite une très bonne soirée, on vous dit à dans 15 jours.
Voilà, dans Bang Geek Mafia.
Sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le